Bonjour, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlais Co.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. La pression des mouvements environnementaux et des écologistes sur les compagnies pétrolières pourrait avoir des conséquences inattendues et regrettables, François.
Et même contre-productive. C'est très étonnant par rapport à l'objectif visé qui est évidemment de diminuer les émissions de carbone de ces compagnies pétrolières. En fait, ces compagnies, elles sont sous un feu nourri de critiques depuis plusieurs semaines. Et on l'a vu notamment au moment des assemblées générales, c'est-à-dire le moment où on réunit tous les actionnaires de Exxon, Total Energy, Shell, etc. Ça se produit une fois par an. Et à cette occasion-là, les activistes environnementaux se sont coalisés, organisés, ils ont convaincu d'autres actionnaires pour faire passer des résolutions qui doivent donc être appliquées par les pétroliers, puisque les actionnaires, ce sont en quelque sorte les patrons des patrons. Au terme de cela, une entreprise comme Chevron s'est vue par exemple imposer la nomination d'administrateurs, justement avec une préoccupation environnementale. Exxon, le numéro un mondial, idem, dans des proportions assez importantes. Total s'en est un petit peu mieux sorti parce que, contrairement aux autres, l'entreprise avait préparé une stratégie climat qui justement balisait la diminution progressive des émissions de carbone et elle l'a soumise au vote de ses actionnaires. Le vote a été un vote d'approbation très significatif, même si ça n'était pas l'unanimité. Mais c'est Shell, en fait, qui a payé le plus cher. Alors là, non pas à cause de ses actionnaires, mais à cause d'un jugement de la Cour de La Haye, cour qui avait été saisie par les Amis de la Terre, une association environnementaliste, et qui, le jugement contraint l'entreprise a accéléré considérablement la diminution de ses émissions de carbone. Elle avait bien prévu de le faire, hein, mais là, il s'agit de multiplier le rythme par deux. Bon, c'est vrai que, évidemment, 42% des émissions dans le monde sont le fait direct ou indirect des compagnies pétrolières ou de gaz. On sait que les énergies fossiles sont parmi les principales contributrices à l'effet de serre, c'est-à-dire au réchauffement de la planète. Shell a d'ailleurs indiqué qu'elle allait se conformer à la décision du tribunal parce que elle n'a pas le choix, hein. C'est à la fois une nécessité juridique et puis la pression des investisseurs est aussi de plus en plus forte. Les investisseurs exigent maintenant que les entreprises dans lesquelles ils mettent de l'argent respectent des normes environnementales de plus en plus strictes et tous les pétroliers ont cette contrainte en tête. Du coup, le seul choix qui s'offre à eux pour aller plus vite dans la diminution des émissions qui leur sont associées, c'est de vendre des actifs polluants. C'est-à-dire des champs pétrolifères, c'est-à-dire des sites d'extraction gazière, de façon à justement faire diminuer la moyenne. Selon le Financial Times, qui cite l'étude d'un cabinet américain, 28 milliards de dollars d'actifs ont été vendus depuis 2018 par les compagnies pétrolières et il y aurait 150 milliards de dollars de ventes à venir. C'est énorme, c'est considérable. C'est évidemment un chiffre qui concerne le seul secteur énergétique, mais la même question exactement se pose pour l'industrie chimique, au moins pour les entreprises cotées, qui sont tout autant exposées à la pression de leurs actionnaires et évidemment tout autant susceptibles de se voir reprocher de polluer l'environnement.
Alors, la question, c'est évidemment de savoir ce que vont devenir ces champs de pétrole et ces usines polluantes. Ils vont disparaître purement et simplement ?
Non, en fait, c'est là justement l'illusion un peu naïve de ces mouvements environnementalistes, c'est de penser que à partir du moment où ils contraignent ceux qui les possèdent aujourd'hui, au fond, ils règlent le problème, pas du tout, parce que en réalité, si ces actifs sont vendus, ça veut dire qu'ils sont aussi rachetés. Et par qui ? Et par des sociétés qui sont ce qu'on appelle le private equity, c'est-à-dire le regroupement de quelques grands investisseurs qui mettent en commun leur argent pour le faire fructifier, par des hedge funds, donc des sociétés financières qui là aussi visent d'abord la rentabilité, ou bien par des compagnies d'État pétrolières. Hein, dans les pays émergents, il y en a plusieurs. Dans les trois cas, il s'agit de compagnies qui ne sont pas cotées, donc qui n'ont pas d'actionnaires grand public, en quelque sorte, ou qui ont des actionnaires comme les États, qui eux-mêmes ne sont pas forcément sensibles aux préoccupations environnementales, en tout cas, qui font prévaloir sur l'environnement des considérations stratégiques. Deux illustrations. En Arabie Saoudite, la compagnie, la principale, vient d'annoncer une augmentation de ses investissements investissements dans les énergies fossiles et des acquisitions. Donc c'est pas du tout le même mouvement. Et en Russie, la compagnie la plus importante, qui s'appelle Gazprom, elle refuse carrément de se donner des objectifs de réduction d'émissions, contrairement justement aux grandes compagnies occidentales.
Alors tout ça, François, ça veut dire que l'action des écologistes ne sert strictement à rien ?
Elle risque fort de ne faire que déplacer le problème, parce que ces actifs polluants vont rester en service, mais ils seront en service tout simplement avec d'autres propriétaires. Il ne faut pas oublier que ces actifs, tout polluants qu'ils sont, pour un financier pur qui ne se soucie pas justement de l'environnement, ils sont très attractifs, parce que la consommation d'énergie fossile continue à grimper dans le monde, et elle va continuer encore probablement pendant plusieurs années. Le prix du pétrole est remonté de façon spectaculaire dans les dernières semaines, autant dire que dans ces moments-là, justement, les actifs sont plus intéressants. Et puis, on le disait, pour les compagnies nationales où l'actionnaire est public, il y a des considérations stratégiques qui font qu'on se dit mieux vaut avoir ça chez moi, parce que je suis assuré d'avoir du pétrole ou plus de pétrole pour être plus indépendant. Ça leur permet aussi, bien souvent, dans les pays émergents, de reprendre aux compagnies occidentales des concessions qui avaient été attribuées il y a des dizaines d'années. Donc, de faire montre d'indépendance ou de nationalisme économique. En fait, tous ces acteurs y vont parce qu'ils sont pas exposés au problème de réputation que connaît une grande compagnie pétrolière. Pas d'actionnaires, on l'a dit, puisqu'il n'y a pas de cotation, ou en tout cas une partie très très minoritaire du capital qui est flottant, et puis pas de consommateurs. Le problème de Total Energy, c'est qu'il a des stations-service, c'est la même chose pour Shell, c'est la même chose pour BP, c'est la même chose pour Exxon. Donc, un boycott des consommateurs qui serait initié ou alimenté par des associations environnementalistes, ça peut évidemment causer des problèmes. Mais ces grandes compagnies, quand on regarde, ne comptent que pour 15% du secteur. Les 85% du secteur, ce sont justement des entreprises non cotées ou bien des entreprises nationales. Il pourrait en être exactement de même pour les réserves pétrolières et gazières qui ne seront pas exploitées, parce que justement les majors pétrolières n'auront pas le loisir de le faire. C'est ce qu'on appelle les actifs coincés. Eh bien, ces actifs pourraient être eux aussi revendus à des acteurs moins scrupuleux. Et il y en a pour 750 milliards d'euros qui sont des réserves quasi prouvées, mais aujourd'hui non exploitées à la fois pour le pétrole et pour le gaz.
Alors, compte tenu de cette situation, comment faire pour que le secteur n'émette plus de gaz carbonique en 2050 et soit ainsi conforme aux accords de Paris sur le climat ?
C'est difficile, parce qu'évidemment, il faudrait des réglementations mondiales, mais en attendant, la question centrale, c'est pas d'agir sur l'offre. L'offre, c'est justement ce que proposent les pétrolières, mais plutôt sur la demande, c'est-à-dire celle du consommateur. Tant que la demande du consommateur existe, et on l'a vu, elle reste plus que soutenue, il y aura des acheteurs qui seront attirés par la rentabilité du secteur et la perspective, justement, de vendre à tous les automobilistes qui n'ont pas de voiture électrique ou bien aux industriels qui ont besoin de ces produits-là. En fait, c'est exactement le même problème pour les droits de l'homme. Total Energy, encore une fois, qui a été mis en cause en Birmanie récemment, puisque l'exploitation des hydrocarbures génère des revenus pour la junte, c'est-à-dire les militaires qui dirigent le pouvoir en Birmanie. Évidemment pas un régime démocratique. Et donc Total Energy, associé à Chevron, bloque désormais les dividendes qui proviennent de l'exploitation des hydrocarbures. Mais alors, évidemment, ça ne suffit pas aux activistes qui considèrent que il faudrait que Total et Chevron se retirent de façon à laisser les Birmans seuls, et à bloquer un peu leurs sources de revenus. Le problème, c'est que pour Total Energy, l'étape d'après, c'est le désengagement, c'est-à-dire la vente. Or, à qui vendrait-il ? On peut imaginer que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est la vente aux Chinois, qui sont voisins de Birmanie, qui ont justement des préoccupations stratégiques très importantes, qui sont très sensibles sur la question de l'énergie, parce que ils n'en ont pas sur leur sol, donc ils sont très désireux d'accaparer des réserves pour pouvoir faire des stocks, et puis justement défendre l'indépendance nationale. Bon, si c'est les Chinois qui rachètent l'exploitation birmane, on peut imaginer que ça n'ira pas mieux pour la population, parce que les Chinois n'ont pas l'habitude d'être très attentifs aux récriminations des associations humanitaires.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.